Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par se présenter rapidement. Didier Sauvage, Valentina Huré, on travaille pour la CETEC, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire qui doit pouvoir construire à peu près, enfin étudier tout ce qui est sur terre, sous terre, sur mer et sous la mer. Je pense qu'on doit à peu près couvrir tous les domaines de la construction. On est un groupe qui fait à peu près 3 000 employés, avec une grande majorité d'ingénieurs. Beaucoup viennent de cette école d'ailleurs. Voilà, Valentina par exemple. Voilà, en termes de chiffre d'affaires, c'est environ 300 millions pour le groupe. Et puis nous, l'entité pour laquelle on travaille, c'est CETEC TPI, qui est plutôt très structure, avec comme stratégie plutôt d'aller se positionner sur des très grands projets, type. Voilà, Grand Paris, tribunal de grande instance, viaduc de Millau, et c'est les fondateurs ont commencé par faire le tunnel sous la Manche, donc vous voyez le type, voilà, d'ouvrage qu'on va rechercher. Et il se trouve que depuis quelques temps, comme vous devez le voir, hein, tout ce qui est urgence un peu climatique, oriente un peu la construction vers des solutions un peu alternatives, notamment tout ce qui est bois, biosourcé, etc. Et nos dirigeants ont souhaité accélérer dans ce domaine, et c'est pour ça que moi, il y a 3 ans, j'ai rejoint ce groupe pour m'occuper de ce développement, puisque ça fait 22 ans que je suis dans cette filière, on va dire. Et Valentina est avec moi dans ce pôle pour contribuer à développer cette activité. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, comme Gilles vous l'a dit, ça fait partie intégrante du cours, c'est plus une introduction à la construction bois. Et après, vous verrez, avec notamment Guillaume, un de nos collègues, et Valentina, vous aurez d'autres cours un peu plus techniques, on va dire.
Juste une parenthèse, cette conférence est partie intégrante du cours, donc des cours qui vont suivre. Il faut y assister et avoir les idées en tête pour les cours qui vont suivre avec Guillaume et moi-même au cours de l'année. Peut-être Didier, on pourra faire une pause avant de parler ouvrage d'art au milieu à peu
Oui.
près.
Alors, j'ai bon espoir qu'on arrive à tout faire, mais c'est possible que le comportement au feu et l'impact environnemental soient pas très. On verra. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, vous avez à l'écran les thématiques qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Vous voyez que c'est assez large. Ça va de la ressource en passant par après tout ce bas déjà ce que vous avez un peu vu, puisqu'apparemment vous étiez en Syrie, donc on va revoir rapidement ces choses-là. Donc la première, deuxième transformation, les différents systèmes constructifs, les ouvrages d'art en bois, le comportement au feu rapidement, et puis l'impact environnemental, parce que ça, vous allez de plus en plus être confronté à ça. Donc comment en fait on arrive à caractériser un matériau ou un ouvrage par rapport à l'impact environnemental qu'il va avoir. Donc ça, c'est assez important. Alors, en introduction, vous entendez tous parler de cet objectif national qui est la neutralité carbone en 2050. Et pour être pratique, en fait, ça veut dire juste qu'en 2050, il faudrait que chacun d'entre nous, on n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Et il faut savoir qu'en 1990, on était à environ 12 tonnes et qu'aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt aux alentours de 10 tonnes. Donc on est encore très loin du but, enfin de l'objectif. Et il est temps de se retrousser les manches, même si on est un peu à la bourre. Donc il y a plein de leviers pour arriver à cette neutralité carbone. Et il y en a 4 qui ont été identifiés dans la filière forêt-bois. Et ces 4-là, ils sont répertorié dans ce graphique-là. Donc le premier, c'est donc tout ce qui est écosystème forestier. Vous voyez que la forêt au global stocke à peu près pas loin de 10 milliards de tonnes équivalent de CO2, et ces 10 milliards se répartissent entre les arbres le sol et les arbres morts, sachant que les arbres vivants, enfin sur pied et dans le sol, on est à peu près équivalent à environ 4,5 milliards de tonnes équivalent. Et comme notre forêt croît chaque année, on vient y ajouter 96 millions de tonnes de stockage dans cet écosystème. C'est pour ça que voilà, un des premiers messages, c'est faisons attention à notre forêt et faisons en sorte qu'elle continue de croître. Ensuite, le deuxième levier, c'est le stockage dans les produits de construction bois. Alors, bon, vous connaissez le phénomène de la photosynthèse, hein, quand l'arbre grandit, il stocke du carbone, et le fait de le couper et de le mettre en œuvre dans un bâtiment, ben, fait que tout ce carbone qui est stocké pendant la croissance de l'arbre, ben, il reste stocké dans la vie du bâtiment. Et c'est vertueux à partir du moment où chaque arbre coupé est replanté, bien évidemment, pour continuer à faire en sorte que cet écosystème forestier perdure. Donc ça c'est le deuxième levier. Le troisième levier c'est ce qu'on appelle le matériau substitution, c'est-à-dire que bah, l'idée c'est d'aller en plus d'utiliser du bois dans la construction en termes de part de marché. Aujourd'hui on va dire que le bois dans la construction c'est environ 10% de part de marché. L'idée c'est d'aller le monter peut-être à 20% de part de marché, et donc ce delta de 10% c'est ce qu'on appelle l'effet substitution sur les autres matériaux, c'est-à-dire que on va essayer de mettre un peu moins de béton, un peu moins d'acier et un peu plus de bois pour rééquilibrer tout ça. Et après il y a le bois énergie. Donc l'idée c'est de bah, notamment les pellets ou d'autres produits qui servent à se chauffer ou à faire de l'électricité. Alors forcément le bilan est neutre puisqu'on va recracher dans l'atmosphère tout le carbone que l'arbre aura en lui, que le bois aura en lui, mais par contre bah, c'est autant d'énergie carbonée qu'on n'aura pas utilisée. Donc c'est quand même un peu mieux. Alors maintenant il n'est pas question de tout remplacer par du bois, on ne pourrait pas. Et donc il faut qu'on trouve un juste équilibre. Donc vous l'aurez compris, dans les faits, il faut qu'on ait une meilleure gestion sylvicole, une récolte de bois qui soit meilleure. On va le voir après en France, où on en est au niveau de la récolte de bois. Et une orientation vers des usages de longue durée, comme la construction des bâtiments, avec notamment cette ambition publique de l'État qui est d'avoir 50% des bâtiments publics en bois. Et puis après, il faut aussi qu'on se développe dans tout ce qui est recyclage, réemploi, pour augmenter encore cette vertu du stockage carbone, et puis la valorisation énergétique en fin de vie, donc se chauffer ou faire l'électricité à partir de produits biosourcés. Au niveau de la ressource, donc si on regarde au niveau macro, c'est-à-dire au niveau mondial, alors ça c'est des infos, je vais aller assez vite, vous pourrez les reprendre à votre compte quand vous souhaitez, mais en gros, 31% de la surface terrestre mondiale est couverte de forêts avec différents types de forêts. Donc on a, bah vous connaissez ça après certainement, tout ce qui est tempéré, boréal et tropical, etc. Avec une majorité, forcément la moitié environ de la forêt tropicale. Et puis on a quand même 5 pays qui concentrent plus de la moitié des forêts dans le monde. Donc ça donne aussi une idée de ce qui se passe quand, par exemple, on peut voir au Brésil des grandes forêts qui sont décimées soit par les incendies, soit par la déforestation. De fait, ça a tout de suite un gros impact. C'est vrai que dans le monde, on a perdu depuis les années 90 ben, pas loin de 180 millions d'hectares de forêts. Et on a un taux de perte forestière qui a, par contre, malgré tout, on a un taux de perte forestière qui diminue, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'améliorer au fil des ans, ce qui est plutôt encourageant. Donc, ce qui veut dire que la déforestation continue, mais à un rythme plus faible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici qui est intéressant ? La plupart du carbone forestier se trouve dans la biomasse vivante, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à peu près 44% dans la matière organique des sols, et 44% pour la biomasse vivante, c'est-à-dire dans les arbres sur pied. Et au total, on a environ 662 gigatonnes en 2020 de stock de carbone. Voilà pour la partie mondiale. Et au niveau français, on pose souvent la question, mais voilà, la ressource, qu'est-ce qu'il en est, etc. Comment on fait pour construire en bois, avec quel bois, etc. Donc je vais apporter quelques éléments de réponse, même si je ne suis pas un spécialiste de la forêt, mais on a quelques données qui sont assez facilement interprétables. Donc ici, on peut voir que depuis, on va dire, le début du 19e, du 20e siècle, la forêt a cessé de croître et qu'on a un taux de prélèvement moyen qui est de 56%. Donc ça veut dire qu'en fait, si on devait raisonner en termes d'exploitation, on n'exploite pas très bien notre forêt, puisque bah, finalement, il y en a encore beaucoup disponibles, et c'est ce qui fait que cette forêt continue de croître également. Ensuite, l'autre particularité, c'est que on a des essences différentes avec 21% de conifères. Donc les conifères, c'est les résineux. Vous verrez après comment on les reconnaît. 67% ce sont des feuillus et puis on a 12% de mixtes. Donc ça, c'est une autre particularité de notre forêt. Après, on peut noter aussi que les forêts publiques ne représentent que 25% de la totalité de la forêt. Ça, c'est quelque chose qui n'aide pas à exploiter le bois en France, puisque en fait, il y a beaucoup de particuliers qui ont des petites parcelles, donc déjà qui ne sont pas incités forcément à utiliser le bois dans la construction, ou même à utiliser le bois, hein, ils ont juste des bois et puis ils n'en font pas grand-chose. Donc c'est quand même 75% de ces forêts. Alors maintenant, il y a des sortes de des coopératives qui vous permettent de vous joindre à des exploitations pour mieux exploiter les forêts, etc. Donc si vous voulez investir dans la forêt, c'est possible et c'est plutôt intéressant et marrant. Vous avez quand même ici, la production en volume, vous voyez qu'il y a un petit décalage entre ces deux répartitions-là, puisque 40% du bois exploité vient de la forêt publique. Et après, ce qui là est aussi un petit peu antinomique, c'est que le bois d'œuvre, donc c'est le bois qui va servir à la construction, ça représente 23% du débouché. 13% c'est le bois d'industrie, c'est tout ce qui est palette, emballage, les panneaux, ce genre de choses-là. Et par contre, vous voyez que le bois énergie, c'est 64%, donc on a plutôt tendance à aller faire du bois énergie qu'à aller le mettre dans la construction. Donc ici, il faudrait peut-être rééquilibrer un peu ces chiffres-là. Et puis là, je vous laisse voir donc les différents massifs en France, où assez naturellement, on a des massifs forestiers qui sont plutôt là où on a les massifs montagneux, hein, notamment le Massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura, etc. Et puis bien sûr le sud-ouest, qui a connu malheureusement cet été pas mal de déboires. Juste pour information également, donc ça c'est pour vous donner à peu près ce qu'on fait d'un arbre. Quand on coupe un arbre, on utilise tout. Les souches, donc tout ce qui est racines, souches et puis ce qu'on appelle en haut le houppier, ça va plutôt servir à faire, vous voyez, du bois énergie, du bois pour le papier, ce genre de choses là. Ensuite les charpentes et les bois de construction, les sciages, c'est plutôt donc la surbille, ce qu'on appelle ici, et puis la partie du tronc, c'est la partie noble, et ça va plutôt servir à faire des tranchages, des roulages et bénisteries. Donc le tranchage des roulages, c'est ce que vous avez par exemple devant vous, hein. Donc c'est toutes ces parties-là qui sont assez nobles, sans défaut, et qui vont servir à tout ce qui est ameublement, ébénisterie, etc. Donc ça c'est la partie, pardon, je ne vais pas trop insister là-dessus, les débouchés. Donc vous voyez que le bois d'œuvre, c'est en millions de mètres cubes, pas loin de 20 millions. Par contre, le bois énergie, on est à 30 millions, etc. Et puis là, vous voyez les différents débouchés avec, au final, les emballages, charpentes, parquets, meubles, etc. Ce qu'on peut noter également, qui est un peu dommage, c'est que donc pour le bois d'œuvre brut, c'est vrai qu'on arrive à limiter les importations, qui représentent 35%. Donc on exploite relativement bien notre forêt. Par contre, pour le bois d'industrie, qui sont tous les bois dont on va parler après, qui servent aujourd'hui beaucoup à la construction, on va dire, très technique, comme le lamellé-collé et d'autres produits comme ça, bon, vous voyez qu'il y a un gros déficit. Ça veut dire qu'en France, on n'a pas investi autant que nos voisins, par exemple, pour faire ce type de produit. Et on espère bien faire notre retard. Et après, pardon, le bois énergie, vous voyez, c'est à peu près fidèle à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Et après, juste pour finir là-dessus, on a quand même une filière forêt-bois qui mérite d'être soutenue, parce que c'est quand même 60 000 entreprises, pas loin de 400 000 emplois. Et bon, avec un déficit commercial par rapport à l'ameublement et au papier, mais voilà, ça vaut le coup d'investir dans cette filière parce que bah, y a du monde et que ça permet aussi d'entretenir on va dire tous les territoires, puisqu'il y a des écosystèmes présents dans tous les territoires, depuis l'amont, la forêt, jusqu'à la mise en œuvre hein, sur chantier. Donc voilà pour l'introduction, la ressource, etc. Je vais vous parler maintenant de tout ce qui est transformation du bois. Donc vous en avez déjà vu une partie, c'est notamment celle-là, donc les boissiers. Hein, donc typiquement, on va retrouver ici bon, un petit peu de vocabulaire, parce que vous le retrouverez dans votre... Enfin, si vous évoluez dans un univers où il y a un peu de bois, ce qui risque quand même d'arriver de plus en plus... vous trouverez régulièrement ces termes-là, donc les pannes, les madriers, les bastins, les solivettes, et tout ça, ça correspond à des sections assez commerciales. Donc voilà, c'est un petit peu de vocabulaire. En général, les boissiers se présentent ben, sur des avivés, on appelle ça, donc ce sont des bois empilés qu'on met en attente d'être commercialisés. Alors, généralement, les skieurs vont vendre en gros. Et puis ensuite, vous avez soit des grosses entreprises qui sont capables d'acheter en direct des grosses quantités comme ça, soit vous aurez des distributeurs, hein, des négoces qui vont revendre au détail pour les particuliers comme nous. Après, ici, vous avez différentes façons de débiter les pièces de bois. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'est plutôt les skieurs qui se débrouillent avec ça. Et ça, vous l'avez vu récemment. Donc je vais aller assez rapidement. Donc tout ce qui est parc agrumes, le sillage, le délignage après. Et puis après tout ce qui est stockage, empilage, et puis stockage en fonction de la destination des ouvrages. Donc ça, c'est pour le boissier. Comment on reconnaît donc un résineux d'un feuillu? C'est assez simple. Les résineux, ce sont les arbres qui ont des aiguilles. Ici, vous voyez qu'il y en a toute une famille. Hein. On va reconnaître l'épicéa, le sapin, le douglas, la famille des pins, le cèdre, le mélèze, qui est plutôt un arbre qui pousse en altitude. Et après, pour les feuillus, ce sont les arbres qui ont des feuilles. Et puis là, vous avez plusieurs familles, mais notamment les plus connues hein, dans la construction. On a le chêne, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir le hêtre, le frêne, un peu le robinier, le châtaignier qui est utilisé également. Voilà, donc ça permet déjà de savoir comment on distingue un résineux d'un feuillu. Et après, il y a d'autres particularités, à part les feuilles. Je vous ai mis ici quelques exemples. Et notamment, on va retrouver chez les feuillus souvent des masses volumiques plus importantes. On va être aux alentours de 600 à 700 kg par mètre cube selon l'essence. Et cette densité fait qu'on va aussi avoir des caractéristiques mécaniques différentes et aussi une durabilité naturelle différente. C'est-à-dire que les feuillus vont souvent avoir des caractéristiques mécaniques un peu meilleure, entre guillemets, un peu plus haute que les résineux, parce que souvent les caractéristiques mécaniques sont liées à la densité. Et puis après, certaines essences sont naturellement durables contre les attaques de champignons et d'insectes. Alors ici, j'ai pris l'exemple du chêne, du châtaignier. Vous avez le hêtre et le robinier. Vous voyez par exemple ici des notions de durabilité qui sont par exemple pour le hêtre qui sont assez faibles et par contre le robinier a une durabilité assez élevée. Donc en fonction des usages, hein, que ce soit des bardages extérieurs ou de la charpente intérieure, on va privilégier certaines essences par rapport à d'autres. Les feuillus, on a encore après j'ai mis quoi le frêne, et puis là vous voyez qu'il y a le peuplier qui est un peu une exception puisqu'il a une densité qui est proche de celle des résineux. Et avec certaines particularités. Donc il a des caractéristiques mécaniques plus faibles, mais Bon, il a d'autres avantages. Après, au niveau des résineux, je vous ai mis ici les exemples du pin sylvestre. Et vous voyez qu'ici, les masses volumiques tournent aux alentours de, en moyenne, à 480-500 kg par mètre cube. Là encore, on va retrouver des propriétés mécaniques un peu différentes, mais en général, elles sont assez proches. Par contre, au niveau durabilité, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. On peut voir notamment chez le Douglas ou le pin d'Oregon qu'on a une durabilité qui est assez bonne. L'épicéa est un peu moins bonne. Et puis après, le mieux, c'est quand même le mélèze, vous voyez, qui est quand même encore mieux. Et le Western Red Cedar, qui est un bois qui vient plutôt d'Amérique. Donc on évite aujourd'hui quand même de l'acheter parce que c'est assez cher et que c'est assez carboné, mais bon, pourquoi pas dans certains cas. Et en termes de mise en œuvre, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces boissiers? Il y a plein de possibilités, notamment vous voyez des exemples de charpente, donc tout le monde a déjà vu de la charpente. On peut faire du solivage de plancher, donc là on est vraiment, je vous ai mis des exemples beaucoup en structure. On a les murs à ossature bois qui vont servir à faire notamment les maisons, mais aussi quelques immeubles multiniveaux. Ça peut aussi servir à faire des bureaux, etc. On reviendra sur ces différentes solutions constructives. On peut également faire des platelages extérieurs et puis des bardages pour les vêtures en extérieur. C'est la majorité des débouchés, même si on peut imaginer encore plein d'autres choses. Alors donc là, on a vu les boissiers, c'est ce qui a le produit de structure le plus brut qu'on puisse trouver. Maintenant, on va aller dans une autre gamme de produits. Et là, on va regarder maintenant les produits qui sont reconstitués. C'est des produits dits d'ingénierie. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des sections et des longueurs d'éléments qu'on peut pas trouver dans le bois massif. Puisque vous vous souvenez, dans le bois massif, on le prend dans la surbille. Et cette surbille, elle fait rarement plus de 6 mètres. Donc déjà en termes de longueur, quand vous prenez des boissiers, c'est rare d'avoir plus de 6 mètres. On peut aller jusqu'à 8 mètres parfois, mais c'est du débit sur liste, c'est du sur-mesure, c'est assez compliqué à avoir, c'est cher. Et donc parfois on a besoin de franchir des portées beaucoup plus grandes que 6 ou 8 mètres. Donc l'industrie, depuis maintenant pas loin de 100 ans, je pense, a commencé à réfléchir à comment répondre à cette problématique. Et donc à trouver des solutions pour, à partir d'éléments assez fins, reconstituer des éléments beaucoup plus importants. Et donc le lamellé-collé, c'est un peu la star de ces types de produits. Et donc, vous avez des... Alors on verra après, je vais tout de suite vous montrer ça, le cheminement de la fabrication. Donc vous étiez en Syrie, vous avez vu qu'il y a différents postes. Pour le lamellé-collé, c'est pareil. On va récupérer des bois de sillage, vous voyez, avec des sections assez faibles et puis des longueurs qui peuvent aller de 50 cm à 3 mètres ou 6 mètres, peu importe. Et puis on va les enturer comme ça en bout, en extrémité, c'est-à-dire qu'on va y faire, vous voyez ici, comme des espèces de petites dents qui vont ensuite être collées. Et ce joint ici s'appelle une enture, et ce joint il est au moins aussi solide que le bois lui-même. Donc ça c'est une condition sine qua non. Donc déjà c'est fait sous atmosphère régulée en termes d'humidité et de température pour que la colle puisse bien prendre, et ensuite les industriels qui font ça, ils sont souvent audités au moins une ou deux fois par an pour vérifier que leur bois, déjà ils respectent bien le protocole de fabrication parce que ça répond à des normes très précises, et il y a des tests de solidité qui sont effectués sur des échantillons aléatoirement pour être sûr qu'on a bien, on respecte bien la norme. Une fois qu'on a fait ça, on va venir déposer de la colle sur le dessus des planches là, et puis on va venir les coller les unes sur les autres pour former des sections très importantes. Ça peut aller de, enfin on le verra juste après, de on va dire 300 mm à jusqu'à 2 mètres de haut. Et les joints sont aléatoirement croisés de sorte à éviter les points de faiblesse. Ce qui permet aussi, soit dit en passant, de disperser aléatoirement tous les défauts du bois. Donc les défauts du bois, ce sont les nœuds, les fentes, ce genre de choses-là. Et ce sont ces défauts-là qui occasionne, comment on va dire, des points de faiblesse dans le bois. Donc le fait de les disperser aléatoirement dans différentes couches et à différents endroits du bois fait que finalement on diminue l'incidence de ces défauts. Et alors l'autre particularité du lamellé-collé, c'est que non seulement on peut en faire des poutres droites, mais on peut aussi en faire des poutres courbes à l'aide de vérins. Quand le bois vient d'être comment dire, encollé, on va pendant un certain temps le faire plier parce que c'est quand même un matériau qui a une certaine souplesse. Et une fois qu'il aura séché, enfin que la colle aura pris, on aura des arcs. On peut avoir toutes sortes de formes. Après, il y a quelques limites quand même dans la fabrication, mais je dois dire que c'est quand même assez libre. Et c'est pour ça que les architectes aiment bien ce matériau, parce qu'il donne aussi des possibilités architecturales que d'autres matériaux ne permettent pas. Ensuite, ici, on a vu le procédé de fabrication. Donc ici, le rendu, vous voyez qu'on a un empilement de couches comme ça, et puis on le voit pas là, mais on a des joints de planches de bois un peu partout. Ce qui caractérise aussi ces produits, c'est qu'ils ont une sorte de passeport industriel, c'est le marquage CE, c'est comme tous les produits qu'on achète du commerce, etc. En fait, c'est une sorte de passeport européen, donc depuis que l'Europe et la communauté européenne du commerce, la CE, est née, il a été décidé que pour qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il y ait un libre-échange possible, il faut que tous les produits soient fabriqués avec la même norme, sinon on peut pas. Et donc ces normes, elles sont donc européennes, et une fois qu'on fabrique un produit selon cette même norme, on peut appliquer une étiquette sur chaque planche, enfin chaque planche, chaque poutre, chaque élément qui va dire, déjà ça atteste du marquage CE, puis après vous avez donc la norme qui a été appliquée, la EN 14080, c'est du GL 24H, ça veut dire glue lame 24H, c'est 24, c'est sa résistance en flexion, ça vous verrez ça plus tard. C'est une domination caractéristique, c'est ce qui permet de reconnaître, de comprendre quel produit est mis en œuvre. Après, donc comme je vous disais, on va empiler des planches les unes sur les autres, donc plutôt dans ce sens-là, mais on peut aussi les mettre sur champ, selon cette configuration. Et en général, on va coller plutôt du résineux, parce que c'est des produits qui ont plutôt été inventés au départ. C'est toujours un peu la même histoire. Les Français qui l'ont inventé au tout début du XXe siècle, et après c'est les Germaniques et les Nordiques qui se sont un peu emparés du concept et qui ont développé toute une industrie. Et comme eux, la plupart de leurs forêts sont constituées de résineux, ils ont orienté le marché avec du résineux. Donc tous les standards aujourd'hui sont plutôt tournés autour du résineux, et donc nous on galère un peu. On a un peu de résineux, on peut faire du lamellé-collé résineux en France, mais ça serait pas mal de faire du feuillu. Alors ça commence, mais on part de très loin, et il nous manque, on a peut-être 30-40 ans de retard qu'on essaye de combler, mais c'est pas évident, ça demande beaucoup d'investissement, etc. Mais c'est en cours. Après, l'autre intérêt, c'est d'avoir, donc je vous ai dit, des poutres courbes, mais vous pouvez aussi avoir des poutres à inertie variable et toutes sortes de formes. Les sections de bois, comme je vous ai dit, on part de 80 mm au minimum, c'est 80 ou 60, non, 60. 60 ici en épaisseur, et puis après, ça va jusqu'à à peu près 230-240 d'un seul tenant, parce que ça, c'est la largeur de planche maxi que vous pouvez débiter. Pardon. Et puis en hauteur, vous voyez que vous pouvez monter jusqu'à 1,60 m, et puis il y en a certains qui arrivent même à coller jusqu'à 2 mètres de haut si on veut une poutre très très costaud. Et sachant qu'en plus, vous pouvez aussi recoller dans la même épaisseur 3 ou 4 épaisseurs. Donc si vous voulez par exemple du 600, vous allez faire 3 poutres de 200 collées les unes aux autres, et puis vous pourrez encore augmenter votre section comme ça. Les différentes formes, vous les avez ici. Vous voyez que c'est très très flexible. et on est très libre. En plus, on peut l'associer avec du métal. Donc, on peut venir faire travailler le métal. Il va plutôt travailler en traction. Il a une très bonne résistance en traction. Donc, et le bois plutôt en compression et en flexion. Donc, on va associer ces matériaux-là parfois. Après, donc ça, c'est plutôt pour faire de l'industriel, de l'équipement sportif, ce genre d'ouvrage-là. Et après, vous avez tout ce qui est pont, passerelle, dont Valentina va vous parler juste après. Ça, c'était de la mêlée collée. C'est vraiment un des matériaux les plus utilisés aujourd'hui dans la construction. Et puis après, vous pouvez retenir aussi qu'on a un deuxième type de produit qui est apparu dans les années 70 aux États-Unis. C'est le LVL. Ça veut dire en anglais Laminated Veneer Lumber. Et en français, on appelle ça le lamibois, mais on peut garder aussi l'appellation LVL. Et là, c'est une autre technologie, ça ressemble plus au contreplaqué. Donc en fait, on va avoir un poste ici qu'on appelle du déroulage. Donc on va dérouler le tronc comme si c'était du sopalin. Donc ce sont des plis qui font 3 mm d'épaisseur. Ensuite, on va les recouper en différentes largeurs. En général, c'est 1,60 m, 2 m. Et puis on va les sécher à 5% environ. Une fois que ces plis seront, ensuite on va les entasser en fonction de leur densité, puisque les arbres n'ont pas la même densité sur dans tout leur volume, c'est-à-dire que l'arbre en été va pousser plus vite qu'en hiver, et donc en hiver, comme il pousse plus doucement, il est un peu plus dense qu'en été. Et donc quand on déroule un arbre, forcément, ben on a des parties qui sont plus ou moins denses. Donc l'idée après, quand on reconstitue toute une pièce de structure, ben il faut homogénéiser un peu tout ça, si bien qu'on va faire des petits tas avec des plis qui sont plus ou moins denses, et puis après on va remélanger toutes ces choses-là. Et puis on va venir les coller les uns aux autres, comme ça, les uns sur les autres, avec un décalage qui va permettre de faire comme une espèce de gros millefeuille, qu'on peut voir à droite ici. Et une fois tout ça bien comprimé, ça va nous faire quelque chose de très dense. Et surtout, là, ce qui est très intéressant, c'est que on va diminuer encore plus l'impact des défauts du bois, puisqu'on va non seulement les répartir un peu partout, mais surtout, ils vont avoir une incidence que sur des plis de 3 mm. Donc, autant dire, très peu d'incidence. Donc, les nœuds, qui parfois peuvent être non adhérents et causer un point de faiblesse dans le bois, finalement, là, ils n'auront une incidence que sur 3 mm de la section de bois. Ce qui fait que ce matériau, il est super déjà parce qu'il est sec, il est, de qualité. Mais en plus de ça, il a des caractéristiques mécaniques très importantes, notamment, par exemple, en flexion, en compression, où c'est deux fois la capacité du bois massif scié. Justement, à cause de cette problématique des défauts qu'on a plus ou presque plus. Pour faire ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant 4 heures environ, les pièces de bois, on va les tremper à, je crois que c'est 60 degrés, enfin peu importe. L'idée, c'est de les attendrir pour pouvoir les dérouler derrière. Bon, donc il y a un petit côté quand même carboné, j'ai envie de dire, pour l'énergie, mais au final, on verra tout à la fin que malgré l'énergie qu'on dépense pour transformer le bois, on est encore en crédit carbone par rapport à plein d'autres produits classiques de la construction. Donc, au final, ça donne quoi? Ça donne des produits de ce type-là. Donc, vous avez soit des éléments droits, linéaires, comme des poutres, soit on l'a sous forme de panneaux. Avec deux particularités, c'est que soit on colle tous les plis dans le même sens et du coup on va maximiser le travail d'une section de bois par rapport au fil du bois, soit on alterne le fil du bois, donc on aura à peu près 20% des plis qui sont orientés à 90%, à 90 degrés, et de fait on travaille un peu différemment, c'est-à-dire qu'on aura un peu moins de résistance par exemple dans un sens. Mais par exemple, on en aura un peu plus dans l'autre. Donc tout ça, pourquoi? Parce que vous verrez dans les cours suivants que le bois est un matériau anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques dans les trois directions, longitudinale, radiale, tangentielle. Et de fait, quand on croise des plis comme ça, donc ça veut dire qu'on va venir mettre le fil du bois dans deux sens, ben, du coup on va améliorer un peu la, ou diminuer un peu cette anisotropie. Voilà, après bon, les épaisseurs, ça va ici, vous voyez, de 27 mm, c'est très petit, jusqu'à 75 mm. On peut aussi le recoller, et donc les applications, c'est soit, pardon, une application en poutre, en général, pour celles qui ont les plis parallèles, collés parallèles, et pour ceux qui ont les plis orientés avec des plis à 90, on va plutôt les utiliser pour des poteaux ou les panneaux de contreventement qui vont avoir un peu plus de cisaillement ou de traction perpendiculaire. Enfin, vous verrez tous ces phénomènes plus tard dans les cours bois. Un dernier produit, encore un produit que je me dois de vous montrer, parce que celui-là, il est de plus en plus utilisé depuis une dizaine d'années, c'est le CLT, donc Cross Laminated Timber, ou panneau massif collé, l'appellation française. Et vous voyez ici qu'on est entre le LVL et le lamellé collé, puisque à nouveau, on va venir utiliser des planches, un peu comme le lamellé collé, hein, on va les coller les unes derrière les autres. Et après, par contre, au lieu d'en faire juste des poutres, on va en faire des panneaux avec chaque pli intermédiaire systématiquement collé à 90. C'est-à-dire que le fil du bois, il n'est pas dans le même sens d'un pli sur l'autre. En gros, c'est ça. Et vous avez des panneaux qui font 3 plis et on va jusqu'à 7 plis. Et là, l'utilisation de ces panneaux, c'est plutôt pour faire des murs, vous voyez, comme des murs en béton, sauf qu'ils sont en bois, ou des planchers. Comme des dalles béton, en fait. Donc, après, l'avantage de ce procédé-là, c'est que vous êtes très vite, au niveau de la construction, ça va très très vite. C'est très raide, ça apporte beaucoup de raideur, donc notamment dans les zones sismiques, on aime bien utiliser ces planchers, ces produits-là. Et après, il faut dire que les majors du béton aiment bien aussi aller vers ces produits parce que ça leur rappelle un peu plus le béton plutôt que d'autres produits qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'utiliser et qui les embêtent plus qu'autre chose. Donc celui-là, je vais dire, intellectuellement parlant, c'est celui qui est le plus proche du béton. Donc c'est un peu plus facile de les emmener à faire du bois avec ça qu'avec d'autres. L'inconvénient, c'est qu'il est très consommateur de matière. Donc ça stocke beaucoup de carbone, c'est bien, mais à l'heure de la sobriété, je suis désolé d'employer un terme qui est un peu mis à toutes les sauces, mais quand même, voilà, on n'est pas obligé de mettre trop de bois si on n'a pas besoin. Donc après, c'est à notre intelligence qui fait en sorte qu'on utilise ou pas ces tel ou tel produit. Je vais un peu vite parce que on va essayer d'aller à l'essentiel. Et les derniers produits. Qui existent aussi depuis très longtemps, ce sont les panneaux à base de bois, hein, donc soit les panneaux d'OSB, les panneaux de particules, vous avez peut-être déjà vu, et qui, eux, vont servir à raidir des cadres qu'on va faire en bois massif, donc l'ossature bois, les maisons en ossature bois, par exemple, ce sont des cadres en bois massif avec des montants, à l'intérieur desquels on va venir mettre un isolant, hein, vous voyez ici les petites cavités qu'on a là. On va venir les remplir d'isolant et puis après on va venir habiller à l'intérieur, à l'extérieur, toutes ces parois. Et pour que le cadre y soit stable, on va venir mettre un panneau derrière qui est vissé, cloué, agrafé. Ça permet aussi, évidemment, de maintenir l'isolant en place. Mais ça a d'abord une fonction de ce qu'on appelle le contreventement. Voilà, donc ça c'est assez classique. Donc, pour vous y retrouver, au final, je vous invite à aller sur ce site, catalogue bois construction, qui vous donnera des fiches produits sur toute la gamme des produits de construction. Donc ça vous permettra d'en savoir plus le moment venu, notamment quand vous ferez les TD ou même plus tard, si vous voulez. Ce site est très, prolifique et on y trouve énormément de trucs, donc n'hésitez pas. Les systèmes constructifs, je fais un petit point, quelle heure il est ? Il faut accélérer. Les systèmes constructifs, donc on a parlé de. Alors déjà, on va regarder les parois verticales en bois. Et comment on peut faire une paroi verticale en bois ? Soit elle est porteuse, soit elle est pas porteuse, ça dépend. Donc en général, on a une structure porteuse ou non, comme je viens de le dire. On a une fonction de contreventement ou non. On a un revêtement extérieur en bois ou un autre matériau, un isolant, un revêtement intérieur ou pas. En gros, c'est ce qui pourrait définir une paroi verticale bois. Et après, vous avez différents systèmes structurels. J'ai déjà parlé du CLT ici et puis aussi de l'ossature bois. Donc ici, l'ossature bois, vous pouvez la voir, elle est à nu. C'est assez rare aujourd'hui. On arrive avec des parois ossature bois complètement finies. Souvent, on a le bardage à l'extérieur qui est mis en usine et puis en intérieur... on a un film par vapeur qui après n'attend plus qu'à recevoir le revêtement intérieur. C'est un des avantages de l'ossature bois, c'est que tout est préfabriqué en usine, vous arrivez sur chantier et tout est quasi fait. Alors que la différence avec le CLT qu'on va voir juste après, c'est que il faut après sur chantier mettre l'isolant, mettre le bardage, enfin il faut tout faire comme pour le béton. Pour l'ossature bois, elle est soit porteuse. C'est-à-dire qu'on va venir faire reposer les planchers dessus et puis descendre de charge, il y a le vent, la neige et tout ça. Soit elle est non porteuse, pourquoi ? Parce qu'on aura une structure primaire en béton, par exemple un poteau poutre comme ça, et on va se servir de l'ossature bois pour se servir comme une enveloppe en fait, un manteau. Puisque comme je vous l'ai dit, l'ossature bois, l'intérêt c'est d'avoir l'isolant dans la même épaisseur que le bois, donc ça, on arrive avec des structures déjà isolées, et c'est, on appelle ça la construction mixte, c'est assez, assez intéressant. Les composants de l'ossature bois, c'est alors MOB et FOB, c'est mur à ossature bois, et là c'est façade à ossature bois, mais c'est la même composition. Donc comme je l'ai dit, il y a un cadre en bois massif, après vous avez un voile de contreventement qui permet de raidir tout ça, et puis tout ça c'est assemblé par des pointes, des vis ou des agrafes. Donc tous ces composants répondent à des normes bien précises qui ont chacune un marquage CE, etc. Et puis si je dois donner quelques règles de construction, vous avez le DTU 31.2 qui est un document qui valide un peu la traditionnalité des constructions en France. Donc le 31.2 pour l'ossature bois dit que l'épaisseur minimum de l'ossature c'est 36 mm par exemple, que la largeur minimum ici c'est 100 mm, le vide entre les montants c'est 600 mm, etc. Tout ça, ça correspond à des choses assez, standardisées pour que derrière, au niveau des isolants, on soit aussi en phase avec leurs standards de construction, etc., etc. C'est pour qu'on ait le moins de chute possible, le moins de gaspillage possible, et qu'on soit on optimise tout ce qui est fabrication. En dessin, la composition type d'une paroi ossature bois. Vous avez votre revêtement extérieur. Vous avez un petit litelage ici qui permet de venir fixer le bardage qui va être cloué sur ce litelage. Après, vous avez un pare-pluie. Pare-pluie, il empêche l'eau qui éventuellement franchit le bardage bois d'aller se mettre dans l'isolant. Là, vous avez un panneau de contreventement qu'on a vu. Vous avez votre ossature bois, l'isolant à l'intérieur. Donc, il y a différents types d'isolants. Pendant très longtemps, on a utilisé plutôt la laine minérale, laine de verre, laine de roche. Et depuis... de plus en plus des matériaux biosourcés comme la fibre de bois, la ouate de cellulose et d'autres. Et après, en intérieur, vous aurez un pare-vapeur et puis un revêtement intérieur, c'est souvent des plaques de plâtre. Ça, c'est le mur type. Alors, pourquoi le pare-vapeur ? Parce que, le pare-vapeur, il a deux fonctions. Ça, c'est le type de question qu'on peut poser le jour de l'examen. Il a deux fonctions, le pare-vapeur, c'est déjà de limiter la vapeur d'eau qui va de l'intérieur vers l'extérieur, puisque vous apprendrez sûrement ou peut-être que dans une habitation, la condensation se fait de l'intérieur vers l'extérieur, c'est du chaud vers le froid. Donc chez nous, dans nos climats, c'est le chaud vers le froid, donc on a un peu de vapeur d'eau qui passe à travers les parois, et pour éviter que cette vapeur d'eau n'aille condenser au niveau de l'isolant, ce qu'on appelle le point de rosée, on met un pare-vapeur ici qui empêche qu'il y ait trop de vapeur d'eau qui aille dans ce mur. Donc ça, c'est sa première fonction. Et la deuxième fonction, c'est qu'il assure l'étanchéité à l'air du bâtiment, puisque quand il y a du vent qui vient perpendiculairement à cette paroi, on peut avoir forcément de la pression d'air qui va se balader un peu dans les cavités. Et l'étanchéité à l'air, donc déjà, est source d'inconfort. enfin, s'il y a une perméabilité à l'air, il y a une source d'inconfort, et en plus, c'est une perte d'énergie, hein, donc on se bat tous pour que on perde le moins d'énergie possible, et donc ce pare-vapeur va faire office de pare-vent également. Différents types de d'ossature bois, avec ce que je viens de vous décrire, c'était plutôt celle-là. Avec en intérieur quand même, donc vous avez votre pare-vapeur ici. Souvent, on a ici une cavité qui sert à venir mettre tous les câbles électriques et mettre nos prises électriques ici. Et donc, on s'en sert pour faire un complément d'isolant. On peut aussi la laisser vide et faire un complément d'isolant par l'extérieur si on veut encore plus améliorer la performance thermique du bâti. Et après, on peut faire les deux pour arriver à des bâtiments passifs et qui consomment quasi plus rien. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Donc là, on a vu l'ossature bois d'une manière générale et qui est plutôt porteuse. Et maintenant, on va regarder les FOB. Donc, c'est les façades à ossature bois. Elles sont non porteuses parce qu'elles sont rapportées à une structure primaire qu'on peut voir ici à droite. Et donc, c'est ces panneaux, hein, ils sont finis en atelier. Puis, on n'a plus qu'à venir les plaquer, soit contre une ossature primaire en béton, soit en métal, soit même en bois, si c'est un poteau-poutre en bois. Et après, il y a différentes façons de l'assembler. Donc, vous verrez avec des équerres, il y a des choses particulières à respecter, notamment faire en sorte que la dilatation entre le béton et le bois, ou alors même les déplacements du béton dus à des efforts de vent, etc., n'interfèrent pas trop avec les parois en bois. Et dans ce cas, dans les attaches, on va laisser des petits jeux pour qu'il y ait des déplacements différentiels possibles. Et soit alors on vient, je reviens un tout petit peu, soit on vient passer devant l'ossature primaire, ce qui est préférable pour éviter tous les ponts thermiques, soit alors on vient s'arrêter entre les ossatures primaires avec un complément d'isolation extérieure. Et puis maintenant je vous donne quelques schémas techniques type de l'ossature bois. Donc là vous voyez on est un mur en pied, donc on va venir y interposer une bande de anticapillarité pour pas que l'eau remonte dans les parois. On a des joints compris-bandes, notamment pour tout ce qui est étanchéité à l'air. Et puis après, vous aurez des distances à respecter, notamment entre le nu fini du béton et du sol fini. Bon, bref, c'est des petites choses à connaître, à respecter. Tout ça, c'est donné dans le DTU 31.2. Hein. Ce sont des règles de construction. Après, là, c'est des schémas types d'assemblage d'angles vus en plan, c'est-à-dire que c'est comme si vous regardiez par-dessus deux murs qui viennent s'assembler pour former un angle droit. Ici, c'est un plancher, donc c'est une coupe verticale. Vous voyez que vous avez un mur ici sur lequel on vient reposer un système de plancher. Et puis on repart avec un mur par-dessus et vous devez assurer la continuité des pare-pluies, le pare-vapeur ici qui fait une petite chicane. Et donc ça c'est des règles de construction. Encore quelques règles de construction quand on a des poteaux en béton. Là c'est pareil, là c'est de l'ossature bois, donc c'est le même principe. On peut avoir soit des murs à ossature bois qui sont posés les uns sur les autres, et puis un plancher bois qui vient s'arrêter au droit de cette paroi bois qui est continue, finalement, sur toute la hauteur du bâtiment. Et ici, c'est en partie haute, au niveau d'une acrotère, donc c'est la toiture, une toiture plate. C'est assez classique. Bon, je n'ai pas le temps de trop développer ça, mais je pense que dans les cours suivants, ou même quand vous ferez les TD l'année prochaine, vous entrerez un peu plus dans le détail de ces types constructifs. Comment c'est fabriqué ? Soit vous avez des façons semi-industrielles avec des tables à assembler, puis des compagnons qui viennent assembler les panneaux, mettre les isolants, etc. Soit vous avez des machines à commande numérique qui sont préprogrammées. Donc on est en bureau d'études, vous avez des dessins en 3D avec tous les éléments constitutifs de la paroi, notamment structurels, qui sont dessinés. Tout ça c'est envoyé dans la machine et puis il n'y a plus qu'à approvisionner en bois et la machine se charge de couper et d'assembler tout ça. Et après on vient charger ça sur des semi-remorque et puis c'est directement mis en œuvre sur le chantier. Vous voyez, bon, ici, c'est complètement vide, mais normalement, on pourrait avoir l'isolant déjà mis dedans avec le pare-vapeur. Ça, c'était un chantier qui a été fait à Montreuil. Voilà le résultat. Donc, c'était un petit bâtiment R+4, 5. Pour vous montrer un peu qu'on peut faire, on ne fait pas que de la maison, on fait aussi du bâtiment d'habitation, voilà, de plusieurs niveaux en ossature bois. Ça, c'est un exemple de bâtiment qui a été fait avec des FOB, donc c'est de l'ossature bois en façade rapportée, un bâtiment de bureau, et donc on voit la structure primaire en béton avec, vous voyez ici, toutes les façades bois rapportées qui ont été après habillées par des cassettes métalliques, on va dire. Au niveau du CLT, on en a déjà parlé, donc il y a la possibilité de faire du mur et du plancher. Ce qui est important de comprendre dans le CLT, c'est que comme il a des plis croisés, il travaille différemment dans les deux directions. C'est-à-dire que plus vous aurez de plis avec le fil du bois orienté dans le sens de l'effort, et mieux ce sera. Je m'explique rapidement. Quand on est dans un plancher comme ça, on va avoir des charges verticales dessus à reprendre et donc le plancher aura tendance à fléchir et c'est cette flexion qu'il faut reprendre. Et il faut comprendre que cette flexion, il n'y a que les plis qui ont le fil du bois orienté dans le sens de la portée, finalement, qui vont être travaillants. Les plis qui sont orientés dans le sens perpendiculaire, là, parallèle à la façade, en fait, ils sont pas travaillants au sens reprise d'effort de flexion. Donc, quand on met un CLT en œuvre, il faut essayer d'orienter le maximum de plis dont le fil du bois est orienté en fonction de l'effort. Donc, pour les planchers, ça va être dans le sens de la portée. Et pour les murs, ça va être dans le sens de la descente de charge, puisque l'idée, c'est d'essayer de faire transiter un maximum de charge par le bois, sachant que le CLT est un nombre toujours impair de plis. Vous comprendrez que plus, si on a les plis extérieurs qui sont orientés dans le sens de l'effort, on en aura un maximum qui seront orientés dans le bon sens, plutôt que les plis intermédiaires qui sont moins nombreux. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair. À expliquer comme ça, c'est pas évident, mais l'idée, vous voyez ici, on a une poutre, c'est pas un mur, et la poutre, elle est plutôt, censée reprendre des efforts de flexion. Donc du coup, on va orienter les plis, le fil du bois dans le sens de la portée de la poutre. Voilà. Bon. Après, si vous avez des questions, on pourrait y revenir un petit peu. Des exemples d'assemblage du CLT. Bon, je vais aller assez vite ici. Donc vous voyez ici on l'a utilisé en plancher, en mur, et qu'on va l'assembler avec des sortes de T métalliques, parce qu'on est dans une zone sismique et on a énormément d'efforts à reprendre, donc on va densifier les assemblages, mais bon, on ne va pas entrer trop dans le détail. Et au niveau de la conception des parois, en fait, vous avez deux possibilités. L'idée c'est surtout que donc quand vous avez votre mur comme ça, c'est une vue en plan, donc vous regardez par le dessus votre mur. L'intérieur, vous avez souvent une petite cavité pour les prises électriques, etc., dont vous allez vous servir pour mettre un complément d'isolant comme pour l'ossature bois, un revêtement intérieur, une menuiserie, et puis à l'extérieur, vous aurez votre isolant, un pare-pluie et un revêtement extérieur. Et ici, il y a une jonction importante à faire au niveau de l'étanchéité à l'air et à l'eau. Mais on retrouve à peu près la même logique, pare-pluie, pare-vapeur, etc. Il peut arriver que dans certains cas, on ait des murs qui soient bruts, naturels. De plus en plus souvent, on le demande, ce qui est quand même un peu plus compliqué parce que pour tout un tas de raisons. Et du coup, il faut que le pare-vapeur, on vienne le mettre plutôt ici, à cet endroit-là. Après, vous avez le système poteau-poutre qui est le plus ancien, je vais aller assez vite puisqu'il s'agit juste de poteaux et de poutres à assembler les uns avec les autres. On va retrouver toute la gamme de produits dont on a parlé, les bois sciés, les bois recollés, comme le lamellé collé, ça peut être du LVL, etc. Et puis les autres composants, c'est souvent Donc des tire-fonds sont des grosses vis, des boulons, et on peut avoir pour la charpente traditionnelle des chevilles en bois. Et ben là, après, on peut faire un peu ce qu'on veut dans le poteau-poutre. Hein. Souvent, c'est utilisé avec des trames standards qui sont aux alentours de 5 mètres par 5 mètres, mais ça peut être assez variable. La particularité de ce type de construction, c'est qu'il faut assurer un contreventement, c'est-à-dire une stabilité par le biais de triangulation, souvent, avec notamment des croix de Saint-André, comme ça. Mais ça, vous verrez également un petit peu plus tard. L'avantage du poteau-poutre, c'est que c'est assez efficace en termes de rendement matière. On utilise assez bien la matière par rapport à ce dont on a besoin d'un point de vue structurel. Par contre, c'est un peu plus long à mettre en œuvre puisqu'on peut moins préfabriquer. Mais ça va quand même très vite hein, à mettre en œuvre. Voilà, différentes façons de faire. Hein, on vient moiser des poteaux, on vient moiser des poutres. Donc moiser, ça veut dire doubler certaines parties de structure. On peut venir dans la même épaisseur, etc.
Je vous donne un.
Merci. Okay. Et puis après, on peut aller sur des assemblages beaucoup plus élaborés et voilà, qui font intervenir aussi l'acier parce que bah, ça travaille bien, les deux vont bien ensemble. Surtout quand on cherche à dissimuler l'assemblage, c'est assez intéressant d'utiliser l'acier. Voilà, d'autres types d'assemblages. Bon, il y en a toute une possibilité. Ici, c'est un exemple d'un ouvrage qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en 2018, c'est le siège de l'INPI à Paris, en poteau-poutre, où vous pouvez voir qu'on a cette typologie-là. On va voir après la maquette 3D. Vous voyez ici donc tout le poteau-poutre qui a été fait avec un solivage en bois et donc le contreventement qui est assuré par des triangulations de partout et une partie de la stabilité également qui est reprise par notamment les cages d'escalier d'ascenseur qui sont en béton pour ce coup-là. Voilà au final ce que ça donne. Donc on a des sections de bois assez importantes parce que bah, on est exposé, donc il y a aussi une résistance au feu, un comportement au feu du bois à analyser. Et donc souvent, on surdimensionne le bois pour pouvoir apporter la résistance au feu nécessaire. Un autre exemple d'immeuble qui a été fait récemment, c'est une des plus hautes tours en bois qui a été faite dans le monde. C'est en Norvège, s'appelle Mjøstårnet. Elle fait 18 niveaux, elle approche les 80 mètres de mémoire. Et pareil, elle a été faite avec un système poteau-poutre et puis une cage d'escalier en bois avec bon des caissons en bois, c'est-à-dire que c'est un mix entre le solivage et les panneaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc c'est pour vous montrer que quand même aujourd'hui on peut aller tutoyer les sommets avec du bois. Donc là, il y a des projets en ce moment qui avoisinent les 100 mètres de haut. Donc pour cette tour-là, ben, y a des complexes de planchers et de parois qui sont assez importants. En général, on est peu exposé au feu, c'est-à-dire qu'il y a peu de bois visible, sauf les poutres principales, vous verrez après, en fait, elles ont été testées au feu pour pouvoir résister 2 heures. Ils ont quand même utilisé des systèmes d'extinction à eau de type sprinklage pour que si jamais il y a un incendie, même si la structure est censée résister au feu 2 heures telle que le veut la réglementation, on a un deuxième système de sécurité, donc qui est l'eau, qui peut permettre l'intervention des secours et surtout qui va faire en sorte d'éviter que l'ouvrage ne s'effondre, parce que même si le feu, le bois résiste 2 heures, ça l'empêche pas de continuer à, éventuellement à se consumer. Donc on veut pas que en général la tour s'effondre, donc on multiplie les systèmes de sécurité. Donc voilà pour les parois verticales. Les parois horizontales, on a donc des planchers courants que vous connaissez, donc solivage bois massif. On peut avoir d'autres produits comme les poutres en I. Le lamé collé, on en a parlé. On peut avoir des systèmes de caissons préfabriqués, mais ce n'est ni plus ni moins qu'un dérivé du solivage classique. Donc ça, c'est préfabriqué en atelier, puis après, il n'y a plus qu'à poser sur chantier les caissons préfabriqués. Et puis vous avez le CLT ici à nouveau. Généralement, on a alors pour tout ce qui est solivage, un panneau qui vient par le dessus. C'est un peu le même principe que pour les parois. L'idée, c'est de venir apporter de la raideur au bâtiment pour qu'il tienne debout. Donc, ce sont ces panneaux-là qui vont permettre d'apporter de la raideur. Et le CLT, il est quant à lui raide intrinsèquement, donc il n'y a pas besoin de rapporter un panneau par le dessus. Et puis en sous-face, on aura souvent un habillage parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue acoustique et d'un point de vue feu d'avoir du bois visible en fonction du type de bâtiment qu'on veut faire. Voilà. Alors ça, c'est un plancher type ossature bois. On avait déjà un peu vu ça. Donc on a un mur à ossature bois qui est ici sur lequel on va venir faire poser un plancher bois. Et après, on va repartir avec le mur ossature bois au-dessus. Et puis, à chaque fois, on va venir interposer des joints compris bandes pour tout ce qui est étanchéité à l'air. On a cette petite chicane pour le pare-vapeur. À l'extérieur, on voit le pare-pluie ici, le contreventement. Voilà, donc ça, ce sont des schémas types d'ossature bois. Là, c'est la même chose, sauf que le plancher, il s'arrête au droit du mur. Il vient pas reposer sur le mur. Le plancher CLT, donc vous voyez que ce sont des panneaux qui sont posés les uns à côté des autres. Et ce qui se passe, c'est que la largeur de fabrication de ces panneaux, c'est il y en a trois en général, c'est 2,45 m et ça va jusqu'à 2,95 m. Donc on peut pas en fait dépasser la largeur de transport standard. Et de fait, il faut juxtaposer plusieurs panneaux et on va les assembler grâce à des languettes de bois comme ça. Donc on va venir décaisser le bois, on va faire une petite rainure, ce qu'on appelle une petite feuillure même. Et puis on va venir visser ici des languettes de bois qui vont permettre de reconstituer un plancher raide pour apporter la raideur nécessaire à l'ouvrage. Voilà comment on vient assembler le CLT. La plupart du temps, on vient poser les planchers sur les murs. On visse les planchers directement dans les murs. Et puis après, on repart avec un mur au-dessus et on vient mettre des équerres vissées devant, derrière. Et ça permet d'assembler toutes ces parois entre elles. Ou alors, on a un mur qui est filant et puis vous avez un CLT qui vient s'arrêter au droit de la paroi intérieure, avec un repos ici qui peut être en bois ou en acier, ça peut être une cornière, ça peut être ce qu'on veut. Une dernière typologie, c'est les planchers bois-béton, pour lesquels on va venir faire collaborer, comme on dit, le béton avec le bois, c'est-à-dire que le béton qui va faire à peu près 7 ou 8 cm va être un élément de structure qui va travailler en compression, puisqu'il a des très bonnes caractéristiques dans ce sens-là. Et le bois, lui, il va travailler en traction. Et donc la traction, c'est dans le sens du fil du bois, mais comment dire, vers les extrémités. Et entre, vous aurez ces pièces métalliques. Ce sont des connecteurs. Et une fois que le béton est sec, ce sont ces connecteurs qui vont empêcher le béton de glisser sur le bois. Donc on dit que les connecteurs ils reprennent le cisaillement et ça permet au final d'avoir un ensemble mixte, hétérogène, mais qui fonctionne de façon homogène et surtout qui est assez raide et assez intéressant à bien des égards, donc d'un point de vue acoustique, thermique et tout ça. Et puis, pardon, juste pour finir, vous voyez ici un panneau d'OSB, lui il est là pour faire le fond de coffrage en fait. Parce que souvent, le béton est coulé en place. On peut faire un peu de préfabrication, mais c'est encore pas très développé. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc le béton travaille en compression, le connecteur il travaille au cisaillement et puis le bois il travaille en traction. Voilà un exemple. Donc vous voyez ici, c'est le bâtiment de l'INPI qu'on a vu tout à l'heure avec le lamellé collé qui est protégé contre les reprises d'humidité et donc notre plancher bois sur lequel on vient couler le béton et qui va se sécher autour des. Déjà il y a un treillis métallique et des connecteurs métalliques pour assurer la bonne fonction de l'ensemble. Et je crois que je finis là-dessus. C'est la charpente traditionnelle, puisque quand on parle de bois, quand même, c'est important d'avoir quelques notions de vocabulaire aussi. Et cette charpente traditionnelle, elle est faite à partir de fermes. Donc les fermes, ce sont les éléments triangulaires là, principaux. Les pannes sont les éléments longitudinaux ici qui viennent sur les fermes. Et puis après, les chevrons, qui sont ces éléments un peu plus petits, qui vont supporter les éléments de couverture. Donc, il y a différentes typologies de fermes. Ce qui est pas mal ici, c'est de retenir un peu les termes. Donc, vous avez l'entrée ici en 1. Vous avez les arbalétriers en 2. Le poinçon en 3. En 4, les contrefiches, les liens ici, et puis éventuellement la jambe de force en 6. Alors oui, ici vous avez une jambe de force, ici aussi, et puis les poteaux, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder tout ça, mais c'est bien quand après, pour bien se comprendre sur les chantiers avec les charpentiers, de parler le même langage. Voilà un peu voilà ce qu'on peut faire en charpente traditionnelle. Donc, on peut faire du comble aménageable, du juste venir s'insérer dans une structure existante en béton. Bref, plein de solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle les accidents de toiture, mais c'est ni plus ni moins que les lucarnes et les houtaux, etc., les fenêtres de toit. Donc, ça, je vous laisserai aussi regarder ça si, voilà, le moment venu. Et après, vous avez les assemblages traditionnels. Ici, vous avez le tenon mortaise. On va retrouver l'embrèvement double. L'embrèvement, c'est cette partie ici. Donc, on vient entailler le bois pour que l'arbalétrier vienne se loger et soit retenu ici et empêche de glisser vers l'extérieur. Et en plus, souvent, on vient y mettre un tenon mortaise et donc on va venir l'assembler avec après des chevilles en bois. Et puis en partie haute, souvent on a du tenon mortaise pour assembler le poinçon, les arbalétriers, les contrefiches, etc. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Et vous allez retrouver ça donc dans des constructions, vous avez certainement déjà vu. Donc il y a plein de solutions, soit en assemblage traditionnel, soit en assemblage boulonné. On peut user pas mal son imagination.